Les faussaires.
On croit toujours, lorsqu'on s'engage sur le chemin du mensonge, que le trajet sera court et facile. On franchit aisément et même avec un certain plaisir les premiers obstacles. Mais bientôt la forêt s'épaissit, la route s'efface, se ramifie en sentiers qui vont se perdre dans des marécages. Chaque pas bute, s'enfonce ou s'enlise. On s'irrite, on se dépense en démarches vaines dont chacune constitue une nouvelle imprudence. À première vue, rien de plus simple que de contrefaire un vieux document. Une feuille de velin jaunie au soleil et usée dans la cendre, la main d'un clerc soudoyé, quelques sceaux appliqués sur des lacets de soie, voilà qui ne semble requérir que peu de temps et des dépenses modiques. Pourtant, Robert d'Artois avait dû renoncer provisoirement à faire reconstituer le contrat de mariage de son père, et cela non seulement à cause de la recherche du nom des 12 pères, mais aussi parce qu'il fallait que l'acte fût rédigé en latin, et que n'importe quel clerc n'était pas apte à fournir la formule utilisée naguère dans les traités des mariages princiers. L'ancien aumônier de la reine Clémence de Hongrie, instruit de ces matières, tardait à fournir l'entrée et l'issue de la lettre. On osait trop le presser de peur que la démarche ne prît un air suspect. Il y avait aussi la question des sceaux. « Faites-les copier par un graveur de coin, d'après d'anciens cachets !» avait dit Robert. Or, les graveurs de sceaux étaient assermentés. Celui de la cour, interrogé, avait déclaré qu'on ne pouvait imiter exactement un sceau, que deux coins jamais n'étaient identiques, et qu'une cire scellée d'un faux coin se reconnaissait aisément aux yeux des experts. Quant aux coins originaux, ils étaient toujours détruits à la mort de leur propriétaire. Donc, il fallait se procurer d'anciens actes, pourvus des cachets dont on avait besoin, détacher ceux-ci, ce qui n'était pas opération aisée, et les reporter sur la fausse pièce. Robert conseilla à l'adivin de rassembler ses efforts sur un document moins difficile et qui présentait une égale importance. Le 28 juin 1302, avant de partir pour l'Est de Flandre, où il devait périr percé de 20 coups de lance, le vieux comte Robert II avait mis ses affaires en ordre et confirmé par lettre les dispositions qui assuraient à son petit-fils l'héritage du comté d'Artois.
« Et cela est vrai, tous les témoins l'affirment !» disait Robert à sa femme. « Simon Dourier se rappelle même quel vassau de mon grand-père était présent, et de quel bailliage on apposa les sceaux. Ce n'est rien d'autre que la vérité que nous ferons éclater là !»
Simon Dourier, ancien notaire du comte Robert II, fournit la teneur de la déclaration, autant que sa mémoire la pouvait restituer. L'écriture en fut faite par un clerc de la comtesse de Beaumont nommé Dufour, mais le texte de Dufour avait trop de ratures, et puis sa main se reconnaissait. Ladivion alla en Artois porter ce texte à un certain Robert Rossignol, qui avait été clerc de Thierry d'Hirson, et qui recopia la lettre, non avec une plume d'oie, mais avec une plume de bronze, pour mieux déguiser son écriture. Ce Rossignol, à qui l'on offrait en récompense un voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, où il avait promis de se rendre en accomplissement d'un vœu de santé, avait un gendre appelé Jean Oliette, qui s'entendait assez bien à détacher les sceaux. Cette famille décidément était pleine de ressources. Oliette enseigna son savoir à la dame de Divion. Celle-ci revient à Paris, s'enferme avec madame de Beaumont et une seule servante, Jeannette la mesquine, et voilà les trois femmes s'exerçant à l'aide d'un rasoir chauffé et d'un crin de cheval trempé dans une liqueur spéciale qui l'empêchait de casser, à détacher les cachets de cire de vieux documents. On partageait le sceau en deux, puis on chauffait l'une des moitiés et on la réappliquait sur l'autre en prenant entre elles les lacets de soie ou la queue de parchemin de la nouvelle pièce. Enfin, on cuisait un peu le bord de la cire pour faire disparaître la trace de la coupure. Jeanne de Beaumont, Jeanne de Divion et Jeanne la Mesquine se firent ainsi la main sur plus de 40 sceaux. Elles ne travaillaient jamais deux fois au même endroit, se cachant tantôt dans une chambre de l'hôtel d'Artois, tantôt à l'hôtel de l'Aigle, ou encore en des demeures de campagne. Robert pénétrait parfois dans la pièce pour jeter un coup d'œil sur l'opération.
« Alors, mes trois Jeannes sont au labeur
» lançait-il avec bonne humeur. C'était la comtesse de Beaumont qui, des trois, était la plus habile.
« Doigt de femme, doigt de fée !»
disait Robert en baisant courtoisement la main de son épouse. Le tout n'était pas de savoir détacher les sceaux. Encore fallait-il se procurer ceux dont on avait besoin. Le sceau de Philippe le Bel était aisé à trouver. Il existait partout des actes royaux. Robert se fit confier par l'évêque d'Évreux une lettre concernant sa seigneurie de Conches. pièce qu'il avait à consulter, prétendit-il, et qu'il ne rendit jamais. En Artois, la Divion mit ses amis Rossignol et Oliette, ainsi que deux autres mesquines, Marie la Blanche et Marie la Noire, à rechercher les anciens cachets de bailliage et de seigneurie. Bientôt tous les sceaux furent réunis, sauf un seul, le plus important, celui du feu comte Robert II. La chose pouvait paraître absurde, mais c'était ainsi. Tous les actes de famille étaient enfermés au registre d'Artois, sous la garde des clercs de Mao, et Robert, mineur lors de la mort de son grand-père, n'en détenait aucun. La Divion, grâce à une sienne cousine, approcha un personnage nommé Ourson le Borgne, qui possédait une patente du feu comte, scellée avec laque de foi, et qui paraissait disposée à s'en défaire moyennant 300 livres. Madame Jeanne de Beaumont avait bien dit qu'on acheta la pièce à n'importe quel prix, mais la Divion ne possédait pas tant d'argent en Artois, et messire Ourson le Borgne, méfiant, n'acceptait pas de se défaire de sa patente contre seule promesse. La Divion, à bout de ressources, se souvint d'avoir un mari qui vivait assez benoîtement dans la châtellenie de Béthune. Il ne lui avait jamais montré trop d'aigre jalousie, et maintenant que l'évêque Thierry était mort, elle recourut à lui. Sans doute c'était beaucoup de gens à présent mis dans la confidence, mais il fallait bien en passer par là. Le mari ne voulut pas prêter d'argent, mais consentit à se défaire d'un bon cheval sur lequel il avait été en tournoi et que la Divion fit accepter à messire Ourson en complément de gage, lui laissant également les quelques bijoux qu'elle avait sur elle. Ah, elle se dépensait, la Divion. Elle ne ménageait ni son temps, ni sa peine, ni ses démarches, ni ses voyages, ni sa langue. Et puis, elle faisait attention à ne plus rien égarer. Elle dormait, la tête sur ses clés. La main crispée par l'angoisse, elle découpa au rasoir le sceau du feu contre Bert, un sceau qui coûtait 300 livres. Et comment retrouver le semblable si, par malheur, il allait se briser? Monseigneur Robert s'impatientait un peu, parce que tous les témoins maintenant étaient entendus et que le roi lui demandait fort aimablement et par marque d'intérêt si les pièces dont il avait juré l'existence seraient bientôt présentées. Encore deux jours, encore un jour de patience. Monseigneur Robert allait être content.